C'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, les pays qui accueillent les réfugiés syriens ont besoin d'une aide financière.
Oui, au premier rang desquels le Liban, où cette question de l'accueil des réfugiés syriens a de nouveau été un thème et un enjeu de campagne lors des législatives. Il faut dire que le pays qui traverse la pire crise économique et financière de son histoire compte 1,5 million de réfugiés syriens, soit plus d'un tiers aujourd'hui de sa population. La Jordanie, la Turquie prennent également leur part. Comment les aider financièrement? C'était l'objet de la 6e conférence de donateurs qui se tenait à Bruxelles et où les promesses de dons ont été supérieures à celles de 2021 malgré la guerre en Ukraine. Encore faudra-t-il les tenir, ces promesses? Bonjour Camille Lecause.
Bonjour Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse au Migration Policy Institute. Alors pour s'arrêter d'abord sur le Liban qui connaît depuis hier le résultat des élections législatives, 11 ans après le début de la guerre en Syrie, le Liban compte toujours 1,5 million de déplacés syriens. Le chiffre est stable, mais est-ce qu'il y a néanmoins du mouvement parmi eux, des arrivées, des départs, des retours en Syrie?
Effectivement, donc ça c'était une grande question, notamment au moment de la crise du Covid-19, parce que les frontières ont été fermées, les mouvements se sont arrêtés. Et c'est vrai que les populations syriennes se sont retrouvées dans une situation encore plus vulnérable du fait de difficultés d'accéder aux soins, d'accéder aux ressources. Et donc on a vu certains retours qui sont parfois encouragés aussi par le gouvernement, qui entretient une situation avec des conditions de vie très compliquées pour ces réfugiés.
Et quand le gouvernement organise des retours, il le fait comment ?
Ça, c'est fait de manière forcée et donc ça a été condamné par la communauté internationale. Et c'est évidemment l'une des questions qui se posent parce que, d'une part, le gouvernement libanais dit bien qu'ils ne vont pas forcer les Syriens à retourner en Syrie compte tenu de la situation. Mais néanmoins, voilà, il y a cette situation qui est très difficile pour les réfugiés syriens, qui se retrouvent un petit peu entre deux options et les deux sont mauvaises.
Et quand le chef de la diplomatie libanaise affirme lors de la conférence des donateurs que les réfugiés syriens ont coûté 33 milliards de dollars au Liban, 3 milliards de dollars par an, est-ce qu'il a dû assumer seul ce coût ou avec des soutiens et lesquels ?
C'est une très bonne question. Donc, depuis 2015-2016, les donateurs internationaux ont vraiment fait de cette crise une priorité, et en particulier les Européens, parce que pour les Européens, ça faisait partie d'une réponse à la crise avec ce flux important de réfugiés syriens qui était arrivé en Europe. Et donc, ça a vraiment été une priorité. Donc, le Liban a reçu un soutien important, de la même manière que la Jordanie et la Turquie. Maintenant, ce soutien a certainement été insuffisant en termes de budget total, mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets au Liban qui rendent la présence des Syriens compliquée, parce que il y a évidemment la composition de la société libanaise et ce jeu d'équilibre permanent entre les communautés. Il y a aussi la relation compliquée avec la Syrie et jusqu'à aujourd'hui le rôle de certains acteurs libanais dans le conflit. Et enfin, voilà, cette histoire des réfugiés au Liban, en particulier des Palestiniens dans le passé, qui rendent cette question de l'accueil très, très chargée politiquement.
Les réfugiés palestiniens au Liban, ils sont 1,5 million. Et le chef de la diplomatie libanaise, toujours Abdallah Bouhabib, dit que les donateurs sont en train de créer pour les déplacés syriens une nouvelle agence onusienne, comme elle l'a fait pour les réfugiés palestiniens. Est-ce que c'est le cas ?
Pas à ma connaissance, en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'est parvenu. Mais ce qui est sûr, c'est que pour les autorités libanaises, la présence des réfugiés, c'est devenu un enjeu dans leurs relations aux bailleurs et aux pays occidentaux, et notamment depuis cet accident du port du Beyrouth. Parce que d'un côté, les pays occidentaux demandent des réformes au gouvernement libanais, mais de l'autre côté, et en particulier les Européens, ils doivent aussi aider le Liban à accueillir ces 1,5 million de réfugiés, dont certains sont là depuis plus de 10 ans. Il y a un devoir de solidarité, mais aussi le principe de réalité, parce qu'il est clair que le pays seul ne peut pas subvenir aux besoins de ses réfugiés.
Et vous évoquiez, Camille Lecause, la dynamique communautaire au Liban aussi, qui joue un rôle dans toutes les questions et tous les débats qui émergent autour de l'accueil des réfugiés syriens. Comment s'en saisissent les politiques ? On parle, quand on parle des réfugiés syriens, on parle de réfugiés qui sont sunnites pour la plupart.
Exactement. Donc ça a été un enjeu et donc on a vu comment certains politiques avaient mentionné le risque qu'il y ait une augmentation du nombre de sunnites au Liban du fait notamment du taux de natalité de ces populations. Bon, voilà, maintenant, je pense que c'est aussi une manière de détourner l'attention. Le Liban est au cœur de cette crise des réfugiés, c'est sûr. Mais on a aussi cette crise plus générale de gouvernance, des services publics, et qui fait que c'est aussi une tactique de certains politiciens au Liban d'essayer de renvoyer la faute vers les réfugiés. Mais on voit qu'au moment des élections, ça a pas forcément pris.
Oui, des services publics complètement défaillants. Au Liban, on est dans un pays où 80% de la population est désormais touchée par la pauvreté. Est-ce que les ONG, les associations qui aident les réfugiés syriens au Liban, est-ce qu'elles sont aussi impliquées auprès des Libanais ?
Exactement, et ça c'est vraiment, ça a été vraiment l'une des avancées, l'une des innovations en quelque sorte de ces dernières années, où maintenant l'idée c'est quand on intervient dans ces contextes de crise, de déplacement forcé, l'idée n'est plus seulement d'aider les réfugiés, mais aussi d'aider les communautés hôtes qui souvent sont tout aussi vulnérables que les réfugiés. Et là, on le voit très bien dans le cas du Liban. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont obligées de s'endetter pour couvrir leurs dépenses. Il y a un vrai problème d'accès au logement, d'expulsion. Et ça, ce sont des difficultés que les Libanais et les familles pauvres, et les familles pauvres syriennes rencontrent ensemble. Maintenant, la différence, c'est que quand même, il y a une question de statut où, du fait de leur statut au Liban, les Syriens ont aussi accès à moins de droits. Et ça, c'est une vraie limite à leurs conditions de vie. Et notamment à leur liberté de circulation dans le pays.
À l'accès au marché du travail, l'accès à l'éducation, à la santé. Et puis dans certaines villes, il y a des couvre-feux spécialement pour les réfugiés syriens. Donc au Liban, les tensions sont particulièrement fortes. Peut-être encore un mot, Camille Lecos, pour rester sur le Liban. Tout cet argent qui afflue pour l'aide humanitaire, est-ce qu'il est tracé ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il alimente lui aussi la corruption dans un pays où les questions de gestion des deniers alimentent le système politique communautaire, encore une fois ?
Oui, c'est toujours une question. Il y a eu beaucoup d'investissements et là, la différence, c'est que beaucoup est passé par des ONG, des organismes des Nations Unies, mais il y a aussi beaucoup d'efforts de travailler avec le gouvernement. Donc, bon, des mécanismes sont mis en place de suivi et notamment l'Union européenne a fait vraiment un gros effort sur ça. Maintenant, on connaît le système au Liban et effectivement, ce n'est pas exclu.
Qui peut aider le Liban, la Turquie, la Jordanie à soutenir l'accueil des réfugiés syriens ? C'est la question des enjeux internationaux ce matin dont l'invitée est la chercheuse Camille Lecos.
Camille Lecos, en Jordanie, en Turquie, il n'y a pas ce jeu communautaire libanais. Il n'empêche qu'en Turquie, la question des réfugiés syriens a tellement tendu, crispé le débat politique que Recep Tayyip Erdogan a annoncé récemment préparer le retour d'un million de Syriens chez eux sur la base du volontariat, dit-il. Je rappelle que la Turquie en accueille plus de 3 600 000. Comment compte-t-il s'y prendre, le président turc ?
Alors ça, je pense que c'est vraiment une question, qui reste ouverte, parce que cette annonce s'inscrit dans un contexte politique avec des élections l'année prochaine où on voit de plus en plus une surenchère des partis politiques turcs sur cette question. Sur cette question des Syriens, et ce qui est intéressant, c'est que ça n'était pas le cas il y a quelques années, et il y a eu aussi, mais comme au Liban initialement, une tendance à accueillir, enfin une volonté d'accueil et de solidarité avec les frères syriens. Mais là, les tensions se sont accentuées, et en particulier depuis la crise du Covid-19, la montée de l'inflation, du chômage. Et ce qui est aussi spécifique à la Turquie, c'est qu'on parle beaucoup des Syriens, mais il y a aussi d'autres populations migrantes et réfugiées, notamment les Irakiens et les Afghans, qui, je pense, sont aussi à la source de ces tensions sur cette question des migrations.
Alors Erdogan a quand même dit qu'il comptait financer avec des associations et l'aide internationale des logements, des structures adaptées dans le nord-ouest de la Syrie, qui est ce dernier territoire rebelle qui échappe au pouvoir de Bachar al-Assad. À quoi ça ressemble aujourd'hui ? Et surtout, est-ce que il est question vraiment de continuer à faire en sorte à construire en fait dans ces zones de sécurité, comme appelle Ankara, tout au long de sa frontière ?
Oui, c'est le projet annoncé du président. Comme vous l'avez dit, ils ont commencé à investir là-bas. Ils prétendent que près d'un demi-million de personnes sont déjà rentrées de manière volontaire. Bon, je pense que très concrètement, la communauté internationale va devoir être très vigilante à vérifier que ces retours ne soient pas des retours forcés et que les gens qui effectivement prennent cette route-là les choisit. Et je pense que ça reste une question ouverte et une question sur laquelle les Européens ont aussi un rôle à jouer, mais ça s'inscrit dans une relation aussi très compliquée de l'Europe et la Turquie sur cette question de l'accueil des réfugiés syriens.
Voilà, parce que les promesses des Occidentaux pour prendre leur part, est-ce qu'elles ont été tenues d'abord vis-à-vis de la Turquie et puis vis-à-vis des autres pays hôtes? La Jordanie, a priori, était censée avoir reçu pas mal de financements, mais tout ça, on parle toujours de promesses de dons.
Exactement. Alors, en Turquie, d'abord, la question des réfugiés syriens est devenue un vrai levier de pression d'Ankara sur les Européens. Et ça, c'est sûr que c'est un problème.
Est-ce que d'ailleurs la Turquie pourrait de nouveau soulever ce levier-là sur la question de l'intégration de la Finlande et la Suède à l'OTAN? C'est quelque chose
absolument,
que vous entendez?
Oui, oui. Oui, elle l'a fait dans le passé, quand il y a eu des désaccords de la Turquie avec à la fois soit l'Union européenne, mais aussi des tensions avec des États membres. Les frontières se réouvraient et c'est un mécanisme que des États aux frontières de l'Europe ont bien intégré. Maintenant, sur est-ce que l'accord a été mise en œuvre du côté des Européens. Ils ont effectivement donné des financements pour l'accueil des réfugiés syriens à la Turquie, mais c'est évidemment insuffisant compte tenu des demandes de ces populations-là en termes d'accès aux soins, d'accès à l'éducation et au marché de l'emploi. Et il y a aussi, de manière plus générale, une dégradation de ces relations qui ont fait que les conditions démocratiques en Turquie ont fait que les Européens n'ont pas pu avancer sur les autres sujets sur lesquels ils avaient dit qu'ils avanceraient, et notamment la libéralisation des visas, qui est un sujet très important, ou qu'il était pour la Turquie.
Néanmoins, cette dernière conférence des donateurs, qu'est-ce qu'on peut dire des promesses de dons qui s'élèvent à quoi 6 milliards 7, alors là on parle en dollars, mais 6 milliards 36 millions d'euros pour les années 2022 et 2023, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est plutôt davantage que l'année dernière, mais ça reste moins que ce que demande et ce qu'espère l'ONU.
Exactement, ça reste moins de ce que demande l'ONU. C'est quand même encourageant parce qu'on est dans un contexte où, avec la crise en Ukraine et aussi la remise de Covid, de la crise du Covid, on sait que les budgets des différents États sont peut-être un peu plus serrés. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un fort engagement toujours des Européens, parce qu'ils savent que c'est, malgré la crise en Ukraine, que c'est l'autre crise sur laquelle ils doivent s'engager. Et ensuite, il y a quand même cette approche qui reste intéressante de dire on ne va pas faire que de l'humanitaire, il faut vraiment penser à des investissements durables sur du développement, parce qu'on sait que ces réfugiés vont rester encore, enfin ils sont là depuis 10 ans dans la plupart de ces États, et ils risquent de rester encore pour de nombreuses années.
Merci beaucoup Camille Lecoz, vous étiez en direct avec nous depuis New York où il est bientôt 1h du matin et vous allez suivre toute la semaine les négociations pour le pacte mondial de migration. Je vous remercie d'avoir été avec nous et je rappelle que vous êtes chercheuse au Migration Policy Institute.
Merci, les enjeux c'est fini, on se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et vos enjeux internationaux, Julie Gagnon. À 6h45.
France Culture. L'esprit d'ouverture.